Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Tchad, l'armée a affirmé ce dimanche que l'opération contre les rebelles du FACT, qui mène depuis un mois une offensive, est finie et que la situation est revenue à la normale. Pour sa part, un journaliste de l'AFP a constaté que plusieurs centaines de véhicules et blindés de l'armée tchadienne ont regagné dimanche la capitale N'Djamena pour célébrer la fin des opérations dans l'ouest du pays. Et l'armée tchadienne a présenté à la presse 156 prisonniers du FACT ainsi que de nombreux véhicules saisis. Au Burkina Faso, 3 civils et 3 soldats blessés dans une double attaque samedi dans le nord du pays. Les 3 civils ont été tués, selon des sources sécuritaires et locales. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé avoir tué hier au moins 10 membres des ADF, groupe armé d'origine ougandaise, dans une offensive à Beni dans l'est du pays. Yakuba Ouedraogo nous donnera les détails. Les avocats de Félicien Kabuka, financier présumé du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, ont demandé l'arrêt des poursuites contre leurs clients. Dans une requête consultée dimanche par l'AFP, ils le disent inapte à être jugé. M. Kabuka a été arrêté le 16 mai 2020 dans la banlieue de Paris après 25 ans de cavale. En Somalie, 6 morts et 6 blessés dans un attentat suicide hier soir à Mogadiscio. John Lindon nous donnera les détails. Un nouveau confinement d'une semaine englobant la fête musulmane célébrant la fin du Ramadan a commencé dimanche en Tunisie au moment où les hôpitaux ont du mal à gérer l'augmentation des cas de coronavirus. La fête de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne, lorsque les musulmans se réunissent traditionnellement en famille ou entre amis, est, dit-on, attendue cette année le 13 mai. Le Covid-19, qui a officiellement fait 580 000 morts depuis début 2020 aux États-Unis, a sans doute tué beaucoup plus de monde dans le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, a estimé dimanche le conseiller médical de la Maison-Blanche, Anthony Fauci. Mais il n'est pas allé jusqu'à valider les plus de 900 000 morts avancées dans une nouvelle étude de l'Université de Washington. L'Europe, Espagne en tête, poursuit son retour progressif à une vie normale et laisse planer le doute sur sa stratégie en matière de vaccins, après avoir annoncé ne pas renouveler ses commandes d'AstraZeneca et s'appuyant sur l'amélioration de la situation sanitaire. Le Premier ministre britannique Boris Johnson va confirmer ce lundi l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie. De nouveaux heurts signalés entre Palestiniens et police israélienne sur l'esplanade des mosquées. Pour sa part, la justice israélienne annonce le report d'une audience clé prévue lundi sur le sort de familles palestiniennes menacées d'éviction par des colons israéliens à Jérusalem-Est, un dossier au cœur de manifestations ayant fait plus de 300 blessés ces derniers jours. Michel Joseph nous en parlera. En Irak, un journaliste irakien était tôt lundi en soins intensifs après une tentative d'assassinat dans le sud de l'Irak, 24 heures après Kehab al-Zouazni, l'une des voix anti-pouvoir en Irak, a été abattu. En Afghanistan, 11 morts dans l'explosion d'une bombe au passage d'un bus, quelques heures seulement avant que les talibans n'annoncent un cessez-le-feu de 3 jours pour l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, 2 jours après un attentat contre une école qui a fait plus de 50 morts, en majorité des jeunes filles, et que le gouvernement leur a imputé. Il nie toute implication dans cet acte. Ici aux États-Unis, un homme a ouvert le feu hier pendant une fête d'anniversaire au Colorado, tuant 6 personnes avant de retourner l'arme contre lui, a annoncé la police. La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, l'armée annonce avoir tué dimanche au moins 10 membres des ADF, le groupe armé d'origine ougandaise, lors d'une offensive à Beni dans l'est du pays. Yakuba Ouedraogo fait le point.
Depuis jeudi, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées sous le régime de l'état de siège par le président Félix Tshisekedi. Des officiers de l'armée et de la police nommés pour remplacer les autorités civiles sont déjà sur place. Dimanche, à Alungupa, dans le secteur de Rwenzori, nos troupes ont pris de l'ascendance sur l'ennemi ADF. Nous avons vu effectivement 10 corps des éléments ADF tués. C'est un bilan encore provisoire, a déclaré à l'AFP le lieutenant Anthony Mualushayi, porte-parole de l'armée à Beni. Dans la journée, une délégation d'officiers ougandais est arrivée à Beni selon l'AFP. L'armée et les autorités n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette présence. Samedi, dans le secteur de Rwenzori, le chef de la localité, Kilia, et son fils ont été tués par balles par un militaire, visiblement incontrôlé selon l'organisation Nouvelle Société Civile Congolaise. Les forces démocratiques alliées sont l'origine des rebelles musulmans ougandais qui ont fait souche en RDC où ils se sont installés en 1995. Les ADF sont de loin le plus meurtrier des 122 groupes armés recensés dans l'Est congolais par le KST. Ces 18 derniers mois, ils sont accusés de massacres de plus de 1000 civils. Le 11 mars, les États-Unis ont placé ce groupe armé parmi les groupes terroristes affiliés aux djihadistes de l'État islamique. Depuis 2019, le groupe État islamique a revendiqué certaines des attaques attribuées aux ADF.
Au moins 6 personnes ont été tuées et 6 blessées dimanche soir dans un attentat suicide contre un poste de police de la capitale somalienne, Mogadiscio. Les détails avec John Lyndon.
L'attaque, menée par un kamikaze équipé d'explosifs, a visé le poste de police de Waberi, situé dans le sud de la ville, sur la très fréquentée route Maka al-Mukarrama. 6 personnes, 4 civils et 2 policiers sont décédés dans cet attentat suicide visant un poste de police, selon Sadiq Doudouché, porte-parole de la police somalienne. Selon lui, l'attentat ciblait le commissaire de police en poste à cet endroit qui a été tué dans l'explosion. Le commandant de la police somalienne, Ibrahim Mohamed, rapporte que l'explosion a été tellement puissante qu'elle a détruit des parties du bâtiment. La route Maka al-Mukarrama, un des principaux axes routiers de Mogadiscio, a été temporairement bloquée par la police, selon des témoins. L'attaque n'était pas encore revendiquée, mais les Chebab, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, mènent régulièrement des attentats contre des cibles gouvernementales et des forces de sécurité à Mogadiscio. Les Chebab, qui ont juré la perte du fragile gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale, ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de l'AMISOM, la force de l'Union africaine.
En Israël, la justice reporte une audience clé qui était prévue ce lundi sur le sort de familles palestiniennes menacées d'éviction par des colons israéliens à Jérusalem-Est. C'est un dossier qui est au cœur des manifestations et en fait plus de 300 blessés ces derniers jours. Le point avec Michel Joseph.
Dans un communiqué hier, le ministère de la Justice israélienne explique qu'à la lumière du contexte actuel et à la demande du procureur général, que l'audience de ce jour a été annulée, précisant qu'une nouvelle date serait annoncée d'ici les 30 prochains jours. Mais la tension restait palpable hier après les plus violents accrochages depuis 2017 à Jérusalem et à la veille de la journée qui commémore la conquête de la partie est de la ville par Israël à l'issue de la guerre des six jours en 1967. Dans le quartier de Sheikh Jarrah, théâtre de protestations quotidiennes depuis plusieurs jours contre la possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens, des Palestiniens ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre israéliennes qui ont fait usage de balles en caoutchouc et de grenades assourdissantes. D'après le Croissant Rouge palestinien, 7 Palestiniens ont été blessés dans les affrontements dimanche soir, dont 4 ont été hospitalisés. Lors d'un message dominical après la prière, le pape François a appelé dimanche à la fin des violences à Jérusalem. La violence engendre seulement la violence. Arrêtons ces heurts.
La Minute Éco, John Lyndon.
La mine d'or du groupe AM Gold Corporation à Essakane au Burkina Faso a produit un total de 113 000 onces au cours des trois premiers mois de l'année 2021, selon une annonce faite par la compagnie minière canadienne. Cette performance représente une hausse par rapport aux 93 000 onces produites au premier trimestre 2020, mais une baisse quand on la compare aux 114 000 du trimestre bouclé fin décembre dernier. Air Sénégal va assurer une nouvelle liaison Dakar-Washington via New York à raison de deux fréquences par semaine dès le 2 septembre prochain. Air Sénégal sera la seule compagnie africaine à effectuer des vols directs et réguliers entre les États-Unis et le Sénégal. Les vols seront assurés par Airbus A330 et Neo, un aéronef ultra moderne doté des commodités de dernière génération. La société SpaceX du milliardaire Elon Musk va lancer l'an prochain vers la Lune un satellite baptisé Doge 1, entièrement payé avec la crypto-monnaie Dogecoin. C'est ce qu'a annoncé dimanche la société canadienne Geometric Energy Corporation, qui va diriger la mission lunaire. L'annonce intervient au lendemain du passage d'Elon Musk à l'émission de comédie satirique américaine SNL, au cours de laquelle le patron de Tesla et de SpaceX a loué le Dogecoin, créé au départ comme une plaisanterie qu'il a aidé à légitimer dans ses tweets.
Merci John. À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football féminin pour démarrer, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu ce lundi au Caire en Égypte.
Oui, les sélections dames seront fixées sur leur adversaire à partir de 11h temps universel. Une CAN où la phase finale aura lieu en 2022 au Maroc sera la première édition organisée sous le format de 12 équipes. D'ailleurs, ce tour préliminaire verra un nombre de records d'inscription cette année. 45 pays se sont engagés pour cette série éliminatoire qui s'étalera sur 3 tours. Tout commence sur le terrain le 7 juin prochain. A noter que dans la même journée, la CAF va procéder également au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans et celle des moins de 20 ans.
En Guinée, élection à la Fédération de football, un protocole approuvé pour une candidature unique.
Kefala Camara, dit KPC, serait l'unique candidat à la prochaine élection de la Fédération guinéenne de football, prévue le 18 mai prochain. Cette décision intervient après une réunion avec le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, et qui a réuni en tournoi soirée Mamadou Bangoura, Salifou Camara, dit Super V, et Kefala Camara, candidat déclaré pour ce poste de président. À 10 jours de la tenue de ce congrès, Abdoul Karim Bangoura, Ahmed Sekou Camara et Souleymane Chérif ont aussi fait acte de candidature pour la présidence de cette institution. Rappelons que après le retrait de la candidature d'Antonio Soare, la commission électorale du recours de la fédération a invalidé la candidature d'Aboubacar Touré parrainée par l'AS Kaloum.
On reste en Guinée pour signaler que la Ligue 1 a un nouveau leader au classement.
Tout à fait, et il s'agit de la SOA. Les académiciens ont réalisé une belle performance en s'imposant 1-0 contre le Oroya de Conakry en match de retard, comptant pour la 13e journée de la Ligue 1 Salam. Un succès qui leur permet de prendre la première place avec 31 points, 2 de plus que l'AS Kaloum. Pour le club de Matam, c'est la fin d'une série de 6 victoires de suite. L'équipe de Lamine Ndiaye, qui a disputé moins de matchs, est classée 9e avec 21 points.
En RDC, l'ASV Club prend pour la première fois de la saison la première place du championnat.
Oui, les Dauphins Noirs ont réalisé cette performance après avoir remporté le derby de Kinshasa devant le Daring Club Motéba Pembe, score 2-0. Avec 58 points, l'équipe entraînée par Florent Ibengue devance le TP Mazembe d'une unité et a encore un match en retard à jouer. Au Bénin, les Buffs du Bogou, vainqueurs 1-0 des AE, consolident leur première place à l'issue de la 6e journée des playoffs. Le club de Parakou compte 14 points, 3 de plus que son dauphin Béké FC de Bemereke, battu 2-1 à Lokosa par Rodio FC de Koumen. Et puis, après un début difficile, les Dragons de Lomé se sont bien repris en enchaînant une seconde victoire d'affilée, cette fois en déplacement face à l'AS Cotonou 1-0.
Cyclisme pour terminer, Christian Rodriguez remporte le Tour du Rwanda 2021.
Christian Rodriguez, a conservé la tête du classement général qu'il menait depuis la fin de la sixième étape. Il a ainsi remporté cette édition 2021 du Tour du Rwanda devant James Piccoli et Alex Owen.
Merci Élisée. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seloumia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, la manifestation contre le conseil militaire de transition initié par le mouvement Wakit Tama a été encore violemment réprimée par la police et les forces de défense et de sécurité pendant le week-end. À l'appel de ce mouvement, une coalition de l'opposition et de la société civile, les manifestants entendaient protester contre la junte au pouvoir. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Les manifestants disent que leur marche avait été autorisée et qu'ils comptaient sur la promesse des autorités de transition de l'encadrer. C'est ainsi que le responsable de la coalition Wakit Tama a indiqué un point de départ à leurs militants et sympathisants. Mais les premiers arrivés sur les lieux ont été confrontés par les éléments des forces de l'ordre, comme en témoigne ce manifestant.
Nous étions là en train d'attendre nos leaders et brusquement les forces du troisième degré ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes et ça a pris la toiture d'une maison et que la maison est en train de brûler et ça pèse son... Les pompiers étaient arrivés. Et de là maintenant, la DGSI a commencé à tirer à balles réelles. L'un des nôtres a été atteint dans l'abdomen et son état était grave.
Un autre groupe d'artistes engagés et diplômés sans emploi qui répondait aussi à l'appel de la coalition Wakit Tama a été également brutalisé par les militaires déployés en grand nombre au micro de VOA Afrique. Ils expriment le ras-le-bol.
On nous tire dessus. On a reçu aussi des balles réelles. Voyez le pied, tout est de la blessure. On nous poursuit comme des moutons. Nous sommes entrés chez une famille en face du terrain Fest Africa, on se rend compte que des lacrymogènes qui tombaient. Il y avait des mamans asthmatiques, des petits-enfants, des nourrissons qui sont tombés. Nous ne sommes pas ceux-là qui chantent l'éloge de quelqu'un. Nous sommes des artistes engagés. Nous luttons pour qu'il y ait un changement dans ce pays-là.
On a fait face à des individus qui ne connaissent qu'un seul langage, le langage de la violence. Est-ce que ces policiers sont au-dessus de ces ministres qui, à travers un arrêté, a permis la marche pacifique?
Nous mettons aussi la France en garde. Quand nous souffrons dans le 9e, dans le 7e, dans le 8e, là, est-ce que la France qui nous apporte à manger? Non, il faut que la France cesse avec sa manipulation.
Joint par VOA Afrique, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Abdramane Koulamallah semble être très occupé ailleurs. Toutefois, il a déclaré que le gouvernement de transition a des preuves que ces manifestants ont un agenda caché, raison pour laquelle les forces de l'ordre ont promptement agi pour circonscrire les dégâts. Il invite les organisateurs à respecter les lois de la République.
C'est un mensonge grossier. Dans ce cas, il aurait fallu simplement attendre de prendre les gens sur le fait. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas réprimer, ils ont réprimé. C'est ce qui nous fait dire que c'était un piège qu'ils nous ont tendu pour nous tuer tous. Simplement, Dieu en a décidé autrement.
Maître Max Lualngar, porte-parole de la coalition Wakit Tama. Pour lui, on ne peut pas légiférer une loi par un simple communiqué.
Ils n'ont même pas eu le temps de prendre une loi d'application de leur charte que nous récusons. Parce qu'ils sont issus d'un coup d'État et ils sont illégaux. Ils n'ont aucune loi à nous opposer. Pour preuve, ils invoquent le décret 193 de 1967 qui a été pris en application de la Constitution de 1962, elle-même abrogée depuis très longtemps et nous avons connu une suite infinie de constitutions. C'est pas possible. Non, 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 ils sont dans la confusion et ils ne convaincraient personne.
Une manifestation qui s'est soldée par plusieurs arrestations, une dizaine de blessés, dont trois graves. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mahamat Ahmad Alabo, avait promis, dès son entrée en fonction, de faire respecter le droit de manifester. Et qui, selon lui, est un droit constitutionnel. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Le médiateur de la CDAO dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, effectue depuis hier une visite de trois jours dans la capitale Bamako. Au cours de cette visite, qui a pour objectif de s'enquérir de l'état de mise en œuvre des dispositions de la transition, le médiateur ouest-africain va rencontrer les autorités intérimaires et les acteurs de la société civile et du monde politique. De Bamako, notre correspondant Mohamed Danyoko.
Il y a quelques semaines, les autorités de la transition ont rendu public le calendrier électoral. La plus attendue, c'est-à-dire la présidentielle, est prévue le 27 février 2022. C'est donc au lendemain de cette décision que le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, effectue cette visite. Hier, à sa descente d'avion à Bamako, l'ancien président nigérien a parlé d'une visite de routine, soulignant que ce déplacement s'inscrit dans un cadre de suivi et d'anticipation pour une transition réussie.
Actuellement, il n'y a pas une préoccupation sérieuse. Nous sommes venus nous entretenir avec les autorités intérimaires, les acteurs de la société civile et le monde politique malien. Le gouvernement avance de façon satisfaisante sur les activités. Nous avons estimé qu'il ne faut pas attendre que les choses se dégradent pour venir faire le suivi.
Ce voyage permettra de juger des progrès sur le terrain, pense Dr Ali Tunkara, analyste.
Une telle visite permettrait à la CEDEAO de s'assurer non seulement de la bonne exécution du calendrier proposé par les militaires au pouvoir, mais dans le même temps d'interroger aussi l'état d'âme des Maliens, en particulier la classe politique, la société civile, sur le déroulement ou le fonctionnement des organes de la transition.
Les membres du M5-RFP, le mouvement du rassemblement des forces patriotiques, à l'origine des événements qui ont conduit à la démission forcée d'Ibrahim Boubacar Keïta, ont été reçus par le président de la transition Bandao le 6 mai dernier. Après cette rencontre, le mouvement affiche des positions tranchées, à savoir la dissolution du Conseil national de la transition et le limogeage du Premier ministre Mokhtar Wane. Pour le politologue Boubacar Bokoum, cette visite de Jonathan pourrait aider à désamorcer un conflit qui se profile entre le M5-RFP et les autorités de la transition.
Goodluck Jonathan va venir parce que simplement la transition traverse une difficulté énorme qui est de respecter le calendrier et de se mettre d'accord avec la classe politique. Donc s'il n'y a pas une entente entre le M5-RFP et la classe politique, le chronogramme sera difficilement respecté.
Pour sa part, l'analyste Ali Tunkara estime que le M5-RFP n'est plus cette force qui a précipité la chute du régime d'Ibeka car ne faisant plus chemin avec son autorité morale qui était l'imam Mahmoud Dikou.
Ces deux éléments aujourd'hui, on sait que le M5 et les ténors de l'imam Dikou sont aujourd'hui en déphasage du point de vue analytique, sont aujourd'hui justement en désaccord absolu quant à la marche qu'a pris cette transition.
Avec les rencontres qu'il aura avec l'ensemble des acteurs, Goodluck Jonathan entend rassurer les uns et les autres pour une préparation sereine des futures élections. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, le gouvernement se retrouve au cœur d'une controverse depuis quelques jours, après avoir exproprié un terrain appartenant légalement à un citoyen pour l'attribuer à la Fédération des associations islamiques du pays. La justice avait ordonné la démolition d'une mosquée bâtie illégalement sur le dit terrain. Mais le gouvernement, craignant des affrontements intercommunautaires, et pour, dit-il, préserver la paix et la cohésion sociale, n'a pas attendu et a donc tranché. De Ouagadougou, Lamine Traoré.
Jonas Ouedraogo, un citoyen, est le propriétaire de la parcelle en question à Pazani, dans un quartier de Ouagadougou. Un beau jour, il découvre qu'une mosquée y a été érigée. Et c'est l'œuvre d'un certain Moussa Guigma. Le propriétaire du terrain, Jacques Ouedraogo, saisit la justice, qui lui donne raison et autorise la démolition de la mosquée. Ceci a été fait, fâchant certains habitants du quartier. Alors que l'affaire est suspendue à l'exécution de la décision de la justice, le gouvernement annonce l'expropriation du terrain litigieux, je cite, « pour cause d'utilité publique ». Il attribue à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, une entité qui n'était pas impliquée dans ce conflit. En guise de compréhension, le propriétaire du terrain exproprié va recevoir un autre domaine ailleurs dans la capitale. À Ouagadougou, beaucoup ne comprennent pas cette immixtion du gouvernement. Simplice Kam, un Burkinabé.
Les magistrats ont tranché, donc le gouvernement en fait devait respecter ce que le pouvoir judiciaire a dit.
Isaac Ilgoudo, un autre citoyen.
Là, on se pose des questions si l'État ne s'immisce pas. On revient pour dire que non, c'est pour des raisons de paix sociale. Oui, certes, mais la justice aussi a son mot à dire.
Dans son communiqué jeudi, le gouvernement a laissé croire qu'il usait de la force publique pour éviter un conflit communautaire et a bien parlé d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais face à la pression, le ministre de l'administration territoriale, Clément Savadogo, a tenté d'expliquer autrement.
Il y a eu des négociations. Monsieur Jacques Bedraogo, quoique propriétaire légal de ce terrain, a accepté de se défaire volontairement de sa propriété, moyennant compensation par un autre terrain sur un autre site, en reprenant la parcelle sous la forme de l'expropriation pour l'utilité publique et ensuite la réattribuer à la Fédération des associations islamiques.
S'il y avait entente, pourquoi donc avoir besoin de s'ingérer par un mécanisme pour l'expropriation? C'est assez curieux que le gouvernement essaye donc de donner de telles explications.
Emmanuel Ouédraogo est le secrétaire général du SAMAB, syndicat autonome des magistrats burkinabés. Il intervient au nom de l'intersyndical des magistrats burkinabés qui condamne l'attitude du gouvernement.
Les travaux, même au moment où ça commençait, eh bien, le juge avait ordonné la cessation des travaux, mais l'intéressé n'a pas daigné arrêter les travaux. Il y a eu de la défiance même à l'autorité des décisions de justice. L'expropriation pour cause d'utilité publique qui est utilisée ici est un motif dévoyé. Il est assez surprenant qu'on puisse parler d'expropriation pour cause d'utilité publique pour porter atteinte au droit de propriété d'une personne et réattribuer à une autre personne. Le gouvernement met en difficulté lui-même sa propre autorité pour l'avenir.
Le syndicat des avocats du Burkina Faso, l'Union des jeunes avocats du Burkina et ceux de la magistrature ont tous estimé que cette irruption du gouvernement est une grave atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire et que c'est un précédent dangereux pour l'état de droit au Burkina Faso. La FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, s'est refusée à tout commentaire. Elle produit un communiqué qui sera publié les prochaines heures, selon certains de ses responsables. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Niger, Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement, a été condamné vendredi par un juge à verser 200 000 francs d'amende et 1 million de dommages-intérêts aux plaignants. Le journaliste est l'auteur d'une enquête qui a révélé des malversations financières dans le secteur de la défense. John Lyndon a recueilli la réaction de l'un des avocats de Moussa Aksar, Maître Boudal Efred Moulou.
Vous savez, il a été condamné à une amende de 200 000 francs plus 1 million de dommages intérêts prétendus. On n'a pas d'autres commentaires à faire que de dire que bon, c'est une décision qui ne sert pas le droit, comme on a eu à le dire à d'autres occasions. Mais dans tous les cas, tout ce qui a des voies de recours, on a déjà changé à faire appel de la décision, puisque en réalité, au-delà de Moussa Aksar, c'est la presse par principe que nous défendons. Et nous ne devrons pas, en tout cas, œuvrer dans le sens d'encourager ceux qui veulent étouffer dans l'œuf les noms professionnels de notre client Moussa Aksar, qui a valu quand même des témoignages de satisfaction même à l'international dans son domaine. Vous voyez, en fait, on nous sert, hein. On aurait pu dire, par exemple, que non, c'est 200 000, ce n'est rien. Mais sauf que là, la particularité, nous ne devons pas accepter qu'il y ait une jurisprudence dans la République nigérienne laquelle se dit aux journalistes, taisez-vous, n'ayez de rien. Sinon, vous serez condamné, ne serait-ce qu'à une peine d'amende. Non, nous n'accepterons pas cela, ça ne se passera pas sous notre ère. Nous allons nous battre devant les juridictions, nous irons en appel. Par principe, vous conviendrez avec moi, c'est pas pour 200 000 francs. Et par principe, parce que nous devons défendre le principe d'une presse libre et indépendante.
Vous parlez de l'indépendance de la presse. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier, qu'est-ce qu'on reproche à votre client?
On lui reproche d'avoir fait son travail. Voilà. Il y a un Nigérien qui a fait plainte pour prétendument diffamation. Et vous savez, pour qu'il y ait diffamation, il faut nécessairement d'abord que le dossier principal qui est pendant devant l'instruction, le juge d'instruction, révèle qui est coupable, qui est innocent. C'est en ce moment que ceux qui sont innocents peuvent saisir les juridictions pour dire que maintenant on les a préalablement diffamés. Mais pour le moment, on ne peut pas anticiper. On ne peut pas créer de conditions pour s'accepter de la procédure principale. Bon, ça, c'est des observations que nous avons mis à faire, que nous continuerons à faire devant le juridiction de droit. Voilà, dans tous les cas, nous sommes sereins, nous sommes acteurs sereins, il continue de faire son travail. Et voilà, on espère en fait qu'en appel, cette décision sera annulée.
Maître Boudal Efred Mouloul, avocat de notre confrère nigérien, Moussa Aksar. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.